une très bonne question pour vous. Quelles sont les qualifications principales que doit avoir le dirigeant d'une église? Le Grand Livre de Dieu va nous donner une réponse importante à retenir aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, aujourd'hui, on débute dans l'enseignement que nous donne la première épître de Paul à Timothée. J'aime beaucoup la relation que Paul avait avec Timothée, ainsi que tout ce que sa lettre à Timothée nous enseigne. Je pense que vous allez en avoir une bonne idée alors que cette épître va répondre aux questions que voici. Par quel type d'église locale est-ce que l'église universelle se manifeste? Comment est-ce que l'église universelle se manifeste? Qu'est-ce qui caractérise une église locale? Quels sont les différents types de gouvernements retrouvés dans les églises? Qu'est-ce qui est encore plus important que le type de gouvernement d'une église? Quelles sont les qualifications principales que doit avoir le dirigeant d'une église? Qui est le chef des églises locales? Qui est Timothée? Restez avec nous, nos réponses s'en viennent. La Bible elle-même va nous répondre par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais premièrement, prions. Merci Seigneur, merci pour cette église de Jésus-Christ, formé par toutes ces pierres vivantes, le corps de Jésus. Merci d'avoir fait de moi une pierre vivante, de m'avoir sauvé, de m'avoir donné la vie éternelle. Et merci, mon Dieu, pour tous les cœurs que tu vas toucher aujourd'hui par ta parole. Touche-nous, Seigneur. Touche-nous profondément. Transforme-nous par tes saintes écritures. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons terminé le livre des Lamentations, un livre qui nous révèle qu'un Dieu d'amour se met en colère contre les pécheurs non repentants. Aujourd'hui, nous retournons au Nouveau Testament. L'émission sera une introduction à la première épître de Paul à Timothée. La première épître à Timothée est la première de l'ensemble des épîtres pastorales. Les trois épîtres, soit 1 et 2 Timothée et l'épître à Tite, ont été rédigées par Paul. Elles sont appelées les épîtres pastorales parce qu'elles traitent de l'Église locale. Ces épîtres sont différentes de l'épître de Paul aux Éphésiens. Dans cette épître, Paul présente l'Église comme le corps des croyants qui sont en Christ Jésus, et il parle de sa position merveilleuse et glorieuse. Cette Église est invisible et elle est formée de tous les véritables croyants qui font partie du corps de Christ. Cette Église se manifeste à travers des assemblées ou des églises locales. Dans les épîtres pastorales, l'apôtre Paul traite des églises locales. Dans le Nouveau Testament, l'église locale n'est pas un bâtiment avec un clocher, avec une tribune pour le prédicateur et une chorale qui loue Dieu. Ce n'est pas dans ce sens que le mot « église » est employé. Les épîtres pastorales sont adressées à deux jeunes prêcheurs ou évangélistes qui travaillent avec l'apôtre Paul, soit Timothée et Tite. Les deux jeunes hommes ont été conduits au Seigneur Jésus par Paul. Ils sont donc des fruits de son ministère. Ces hommes accompagnaient et aidaient Paul, et il leur a donné de l'enseignement au sujet de l'Église locale. Quels sont les deux principaux éléments dont Paul traite dans ses épîtres? Dans ces trois épîtres, l'apôtre Paul traite de deux éléments, la confession de foi ou le credo de l'Église et le gouvernement ou la conduite de l'Église. À l'intérieur de l'Église, l'adoration doit se faire d'une façon acceptable à Dieu. Les gens de l'extérieur doivent voir les bonnes œuvres de l'Église locale. L'adoration se fait à l'interne, les œuvres à l'externe. C'est par ce type d'église que l'Église universelle se manifeste. Dans chaque épître, Paul aborde ces deux sujets. Par exemple, dans la première épître à Timothée, Paul écrit au sujet de la foi de l'Église dans le premier chapitre, le bon fonctionnement de l'Église dans le chapitre 2, les qualifications d'un évêque ou d'un ancien dans le chapitre 3, l'apostasie dans le chapitre 4 et les devoirs du pasteur dans les chapitres 5 et 6. Dans la deuxième épître à Timothée au chapitre 1, l'apôtre Paul traite des épreuves de l'Église, des activités de l'Église au chapitre 2 et de l'apostasie ainsi que de la fidélité dans les chapitres 3 et 4. L'épître de Tite touche les mêmes thèmes. Le premier chapitre aborde le bon fonctionnement de l'Église, le deuxième, la doctrine de l'Église, et le dernier chapitre, les œuvres de l'Église. À l'intérieur, une Église possède une confession de foi et elle adore Dieu. Par contre, à l'extérieur, sa conduite démontre sa piété et elle pratique des bonnes œuvres. Comment se manifeste l'Église universelle? Aujourd'hui, l'Église universelle, le corps de Christ, se manifeste à travers les assemblées locales. Elle commence par se procurer ou se construire un bâtiment. À l'époque de l'apôtre Paul, les assemblées n'avaient pas de bâtiment. On ne construisait pas de bâtiment d'église. Les assemblées se réunissaient dans des foyers ou des édifices publics. Nous savons qu'à Éphèse, Paul a utilisé, peut-être loué, l'école de Tyrannus. Les gens devaient venir de partout pour entendre Paul prêcher. Cette assemblée est devenue l'église locale d'Éphèse. Qu'est-ce qui caractérise une église locale? Pour être considérée une église locale, une assemblée doit posséder certaines caractéristiques. Elle doit avoir un credo ou une confession de foi, et sa doctrine doit être biblique. Deux versets résument bien le message de l'apôtre Paul dans ses épîtres. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. 1 Timothée chapitre 1, verset 3. Il est très important que la doctrine d'une église soit biblique. C'est pour cette raison que j'ai dit qu'une église locale n'est pas un bâtiment avec un clocher. Cependant, Paul a aussi dit à Timothée, « Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » 1 Timothée chapitre 3, verset 15. L'Église locale doit être composée de croyants qui sont des membres du corps de Christ. Pour que le corps fonctionne bien, il doit y avoir une autorité en place. Des personnes doivent être nommées pour remplir certaines fonctions. Quelqu'un doit faire le ménage. Quelqu'un doit ouvrir le bâtiment le jour des réunions. De plus, c'est bien d'avoir une chorale et une personne responsable de la musique. Il doit aussi y avoir des anciens pour diriger l'Église, et ceux-ci doivent avoir les qualifications bibliques. Tout doit se faire avec ordre dans l'Église et dans la communauté. L'Église doit être reconnue pour ses bonnes œuvres. Malheureusement, de nombreuses églises aujourd'hui ne démontrent pas que le Seigneur Jésus transforme les vies. Trois types de gouvernements retrouvés dans les églises. De ces épîtres pastorales, les chrétiens en ont déduit trois formes de gouvernement adoptées par différentes religions majeures. Les églises s'entendent passablement bien au sujet des doctrines orthodoxes, mais elles sont divisées sur la façon de gouverner les églises et sur le fonctionnement des églises locales. Il est tout de même étonnant que les chrétiens voient trois formes différentes de gouvernement dans ces épîtres. Premièrement, il y a l'épiscopalisme. Un homme ou un groupe restreint d'hommes gouverne les églises. Chez les catholiques romains, le pape dirige l'église, assisté des cardinaux et d'une hiérarchie. Chez les anglicans, c'est l'archevêque de Canterbury. Les églises locales sont gouvernées par une hiérarchie au-dessus d'elles. Deuxièmement, les églises réformées emploient un type de gouvernement appelé le presbytérianisme. Un conseil presbytéral ou un conseil d'anciens gouverne les églises locales. Les membres du conseil sont élus par les églises locales. Les églises locales sont chapeautées par un organisme central. Troisièmement, le type de gouvernement préféré de certaines religions, surtout les religions évangéliques, est le congrégationalisme. Ce sont les membres de l'église locale qui prennent les décisions et qui gouvernent l'église. L'Église accepte les nouveaux membres par un vote et toutes les décisions majeures doivent être approuvées par l'Assemblée. Si des théologiens voient trois types de gouvernement d'Église dans ces épîtres, c'est qu'ils donnent un sens différent à certains mots. j'attirerai votre attention sur ces différentes interprétations alors que nous examinerons le texte des Épîtres. Qu'est-ce qui compte plus que le type de gouvernement d'une Église? Il est intéressant de noter qu'au début de l'Église, les trois types de gouvernement fonctionnaient bien. Maintenant que nous nous trouvons dans une période de décadence spirituelle, ils ne fonctionnent plus aussi bien. Des pasteurs et des chefs religieux qui œuvrent dans ces trois régimes rapportent des luttes internes, du désordre et des querelles. Qu'est-ce qui ne va pas? Certains suggèrent que c'est le système. Je vous suggère une réponse et j'espère que je ne serai pas mal compris. Le problème n'est pas le système. Aucun système ne peut entraver le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité. Bien que le type de gouvernement soit important, il ne l'est pas autant que le calibre spirituel et le caractère des hommes que nous plaçons dans les différents postes. Les Épîtres énumèrent les qualifications essentielles pour les dirigeants d'Église. Tel être sobre, mari d'une seule femme, etc. Les Églises discutent souvent de ces qualifications bibliques. Cependant, il y a une qualification fondamentale dont on ne parle presque jamais. Les hommes qui occupent des fonctions importantes dans l'Église doivent être spirituels. Aucun type de gouvernement ne peut fonctionner si les hommes en place ne sont pas transformés à l'image du Seigneur Jésus, autrement dit, s'ils ne sont pas spirituels. Si des hommes charnels sont mis en position, aucun type de gouvernement ne peut fonctionner adéquatement, que ce soit l'épiscopalisme, le presbytérianisme ou le congrégationalisme. Mes amis, c'est cela le véritable problème. Lorsque nous élisons une personne à un poste d'autorité, les dons de leadership de cette personne doivent être évidents, mais il faut surtout s'assurer que la personne soit spirituelle. Quelles deux vertus doit posséder un dirigeant d'Église? Paul va mettre l'accent sur deux éléments au sujet des dirigeants spirituels. Ils doivent être des hommes de foi et ils doivent être motivés par l'amour de Dieu et des frères. Si la marche quotidienne du dirigeant ne manifeste pas ces deux vertus, il ne pourra pas diriger l'Église adéquatement, qu'importe ses habiletés et son expérience. Autrement dit, un dirigeant n'a pas de véritable autorité. Paul dit que si une personne est élue ou nommée à un poste d'évêque, d'ancien ou de diacre, elle peut se penser importante et tenter d'être autoritaire, mais en réalité, elle n'a pas d'autorité. Que veut dire l'apôtre Paul? Il dit que c'est le Seigneur Jésus qui est la tête de l'Église et que c'est le Saint-Esprit qui guide l'Église et qui lui donne des instructions. Un dirigeant d'Église ne doit jamais imposer sa volonté, mais il doit chercher quelle est la volonté de Dieu. Ceci signifie qu'il doit être un homme de foi capable de marcher par la foi. Le dirigeant doit aussi être motivé par l'amour. Cela ne signifie pas qu'il doit flatter tout le monde, chercher à plaire à tout le monde. Il ne doit pas chercher à plaire aux hommes, mais il doit accomplir la volonté du Seigneur Jésus pour l'Église. Il doit s'assurer que c'est le Seigneur Jésus qui est la tête de l'Église. Malheureusement, les pasteurs doivent souvent passer des heures épuisantes en réunion à discuter des bagatelles qui n'ont rien à voir avec le bien-être spirituel de l'Église, mais qui ont tout à voir avec la volonté d'un ancien ou d'un diacre entêté qui se croit spirituel. Un tel homme ne sait pas qu'il doit accomplir la volonté du Seigneur Jésus parce que, premièrement, il n'a jamais vraiment cherché à la connaître. Il ne cherche qu'à imposer sa volonté parce qu'il pense toujours avoir raison. Qui est le chef des églises locales? Mes amis, c'est le Seigneur Jésus qui est le chef des églises locales. Jésus-Christ a dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» L'Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 46. De nombreuses personnes font cela aujourd'hui. En priant, elles disent « Seigneur », mais elles ne lui obéissent pas. Les lèvres et les actions se contredisent. Être un dirigeant d'Église signifie que vous veillez à ce que la volonté du Seigneur Jésus s'accomplisse et que ses commandements soient observés. Il est la tête de l'Église locale. Il est le dirigeant dont nous avons vraiment besoin, n'est-ce pas? C'est pour cette raison que je ne suis pas disposé à discuter de la forme du gouvernement d'une Église avec les gens. Si vous pensez que vous avez le meilleur type de gouvernement, c'est bien. Seulement, votre type de gouvernement ne fonctionnera que si vous mettez des hommes spirituels en place. Si vous placez des hommes charnels dans les postes clés, rien ne fonctionnera, qu'importe le type de gouvernement. Un dirigeant qui ne fonctionne pas selon les principes bibliques est le grain de sable dans l'engrenage. Bien que ce soit le rôle de l'Église de refléter l'image du Seigneur Jésus, souvent cela ne se fait pas à cause des dirigeants que nous choisissons ou nommons. Ainsi l'Église ne révèle pas le Seigneur Jésus. Dans la première épître à Timothée, l'apôtre Paul traite de la réalité de l'Église locale et il met l'accent sur les qualifications et le calibre spirituel des anciens et des diacres. C'est ce qui détermine si une assemblée locale est une Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons aborder la première épître à Timothée. Le premier chapitre traite de la foi de l'Église, le deuxième de la prière et du rôle de la femme, le troisième des anciens et des diacres, le quatrième de l'apostasie et dans le cinquième et le sixième chapitre des devoirs des dirigeants d'Église. Qui est Timothée? Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. L'apôtre Paul voulut l'emmener avec lui, et, l'ayant pris, il le circoncit, à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Citation du livre des Actes, chapitre 16, les versets 1 à 3. De ce texte, nous apprenons que Timothée vient probablement de Lystre, que sa mère était juive et son père grec. La marche chrétienne de Timothée était exemplaire. Paul l'a donc choisi pour l'accompagner. Il l'a circoncis afin que cela ne soit pas un obstacle à la prédication de l'Évangile. En effet, Paul visitait la synagogue dans toutes les villes où il allait, et les Juifs n'auraient pas nécessairement accepté d'être enseignés par un incirconcis. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Citation de 2 Timothée, chapitre 1, verset 5. La grand-mère et la mère de Timothée étaient des femmes pieuses. Le jeune prédicateur a été exposé à la parole dès son enfance. Le nom Timothée signifie « qui adore Dieu ». En lui donnant ce nom, les femmes ont indiqué qu'elles désiraient que l'enfant craigne et honore Dieu. L'apôtre Paul appréciait beaucoup Timothée. Ces mots que Paul a écrits à l'église de Philippe montrent l'estime qu'il avait de Timothée. « J'espère, dans le Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. » Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts, et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc que vous l'envoyez dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Citation de Philippiens chapitre 2, versets 19 à 21. Notez en quels termes Paul parlait de Timothée. « Mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. » 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 17. « Mon enfant légitime en la foi. » 1 Timothée, chapitre 1, verset 2. « Mon compagnon d'œuvre. » Romains, chapitre 16, verset 21. Timothée était un homme timide qui avait aussi quelques problèmes de santé. Paul lui a écrit « Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » 1 Timothée chapitre 5, verset 23. Paul a encouragé Timothée à ranimer la flamme du don de Dieu qu'il avait reçu. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée chapitre 1 verset 6 et 7. Timothée a aussi été persécuté pour sa foi. En effet, il a fait de la prison. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Hébreux, chapitre 13, verset 23. L'apôtre Paul a écrit à Timothée ainsi qu'à Tite pour les encourager et leur donner des conseils. Par ce fait même, il s'adresse aussi à tous les pasteurs et les prédicateurs. Ainsi, les dirigeants d'église savent comment ils doivent se conduire dans l'église du Seigneur. Une occasion de vous examiner. Dans son épître, Jacques a dit, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Jacques, chapitre 3, verset 1. Vous aspirez peut-être à avoir une responsabilité ou un poste dans votre église locale. Alors il faut examiner vos motifs, car vous serez jugés plus sévèrement lorsque vous comparaîtrez devant le Seigneur Jésus. Avez-vous développé, cultivez-vous, une relation personnelle et intime avec le Seigneur Jésus? C'est là la qualification essentielle pour servir. Tous les croyants, qu'ils occupent un poste ou non, devraient être en relation personnelle avec Dieu. La Bible nous avertit de ne pas éteindre l'Esprit en nous. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens, chapitre 4, verset 30. Cependant, il est impossible de servir Dieu si nous ne sommes pas en relation personnelle et intime avec lui. En effet, lorsque nous ne sommes pas, nous marchons selon la chair, avec nos propres forces. Nous cherchons à satisfaire nos convoitises. Nous servons pour un but strictement égoïste. Nous pouvons avoir une excellente formation théologique, connaître la Bible sur le bout des doigts, mais si nous n'avons qu'une connaissance intellectuelle, le Seigneur ne peut pas utiliser cela. Nous pouvons avoir des dons merveilleux. Nous pouvons être d'excellents chanteurs ou musiciens. Nous pouvons rédiger d'excellents textes ou encore être un enseignant habile. Sans amour pour lui, Dieu ne peut pas utiliser nos atouts. Il cherche des cœurs qui l'aiment. Seul ce que nous faisons par amour pour Dieu a de la valeur à ses yeux. Dieu est le Créateur de l'univers, il est tout-puissant, présent partout et il sait tout. Il est infini dans ses perfections. Nous ne pouvons rien faire pour rendre Dieu meilleur ou pour le diminuer d'une façon quelconque. C'est lui qui est la source de vie et qui soutient sa création. Nous avons tout reçu de Dieu et nous ne pouvons que lui donner des expressions de notre amour. Nous ne sommes donc pas qualifiés si la Bible n'a touché que notre intelligence sans toucher et transformer notre cœur. Tous nos atouts sont inutiles si nous ne les utilisons pas pour exprimer notre amour à Dieu, si nous ne servons pas parce que nous aimons Dieu. Alors que nous étudierons ces épîtres pastorales, demandez à Dieu de vous montrer si vous avez le cœur, l'attitude ou le calibre spirituel pour servir dans le poste que vous désirez ou convoitez. Examinez si vous avez les qualifications énumérées par l'apôtre Paul. Si vous décelez une ou des lacunes, confessez-les à Dieu et demandez-lui de travailler dans votre cœur, de vous transformer davantage à l'image de son Fils. Demandez-lui un cœur qui l'aime davantage. Soyez assurés que Dieu entend ce genre de prière. Car tout au long de la lecture de ces épîtres, vous allez être confrontés par le caractère de Dieu. Dieu est saint et juste, et il nous appelle à le suivre dans cette sainteté, dans cette pureté qui décrit les enfants de Dieu, et surtout ceux qui sont appelés à le servir. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant 1 Timothée chapitre 1, les versets 1 et 2. Bonne lecture.
Oh, merci beaucoup, Régent. Tu as dit quelque chose au courant de l'émission, quelque chose qui m'a beaucoup touché. Ça me donne le goût de composer un chant d'amour et de louange pour mon Dieu merveilleux. Mes amis, permettez-moi de répéter ce que Régent nous a dit au sujet de Dieu. Mais au lieu de dire, par exemple, « Il est », je vais le changer pour « Tu es ». Afin que ce soit pour nous une occasion de louer notre grand Dieu en ce moment même, ensemble. Ce sera notre prière, notre louange, notre adoration adressée au Dieu de l'univers, notre Créateur, notre Sauveur, notre Seigneur, celui qui seul est digne de notre adoration. Et pendant que je vais adresser ces paroles à Dieu, je vous invite à les lui adresser aussi dans vos cœurs. Alors voici, tu es le Créateur de l'univers. Tu es tout-puissant. Tu es présent partout. Tu sais tout. Tu es infini dans tes perfections. Je ne peux rien faire pour te rendre meilleur ou pour te diminuer. Tu es la source de vie. Tu soutiens ta création. J'ai tout reçu de toi. Je ne peux m'empêcher de t'offrir des expressions de mon amour. Je veux tout faire par amour pour toi. Mes amis, c'est tellement bon de louer ce Dieu d'amour qui a tout créé pour sa gloire et pour notre bien. Et toi, mon ami, as-tu adressé ces paroles à Dieu dans ton cœur en même temps que moi, en même temps que nous? Si tu es un croyant, je suis certaine que tu es d'accord avec tout ce qu'on vient d'adresser à Dieu. Mais si tu n'es pas encore devenu un enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ, j'aimerais t'inviter à le devenir. À devenir non seulement un enfant de Dieu, mais un adorateur reconnaissant pour l'amour qu'il nous a manifesté en envoyant son Fils unique sur cette terre afin de payer la dette de nos péchés à notre place, pour qu'on puisse passer l'éternité en sa présence. Si tu crois en Jésus, j'aimerais t'inviter à faire cette prière avec moi dans ton cœur ou tout haut. Le Seigneur t'entend. Alors dis-lui ceci avec moi. Seigneur, je viens à toi en ce moment, sachant que je ne suis pas digne d'entrer dans ta présence, parce que je suis un pécheur, une pécheresse. Je sais que tu détestes le péché, parce que tu es trois fois saint. Mais je sais aussi que tu m'aimes et que tu veux que ma relation soit rétablie avec toi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort sur la croix pour payer la dette de mes péchés en entier. Maintenant, je veux me détourner de tout ce qui est péché dans ma vie. Mon Dieu, pardonne-moi. Seigneur Jésus, je te demande de me sauver, de me donner la vie éternelle. Et maintenant, je veux que tu sois non seulement mon sauveur, mais aussi mon Seigneur, mon Maître. Je veux faire ta volonté. Et merci, Seigneur, pour le don gratuit de la vie éternelle. Mon ami, si tu as fait cette prière avec moi, si tu l'as faite de tout ton cœur, si tu crois en Jésus, eh bien, tu viens de recevoir le salut, le don gratuit de la vie éternelle. Rends grâce à Dieu chaque jour et va voir dans sa parole parce qu'il veut parler à ton cœur. Il va t'instruire lui-même. Ouvre ta Bible. Fais comme moi la première fois. Ouvre dans l'Évangile de Jean et il va parler à ton cœur par l'apôtre de l'amour qui a cité toutes ces belles paroles.
Réjean, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Mmh. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Mmh. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage, c'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens. Combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Ou via courriel.
À www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G6P2. Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.